Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission, Isabelle, avec vous. Ben, c'est Le Devoir qui a un titre formidable ce matin concernant cette nouvelle, entre guillemets, entente avec les médecins spécialistes du Québec. Le titre du Devoir dit « Une ponction indolore ». Et c'est tellement indolore, et non pas indolore, parce que quand il y a d'argent, on s'entend que c'est vrai que ça change. Tu sais, on change 4,30 sous pour une pièce. 4,30 sous pour un dollar, effectivement. Une ponction indolore parce que, de ce qu'on comprend, les médecins spécialistes vont rien sentir de cette nouvelle entente, effectivement. En d'autres mots, ça leur fera pas mal. Ce que je comprends, c'est qu'ils baissent pas de salaire, vraiment. On ne va pas chercher des sommes dans leur rémunération. On va plutôt créer un institut de la pertinence des soins qui sont prodigués. Et ils auront, ils se sont engagés, les médecins spécialistes du Québec, donc, à livrer des économies sur des soins qu'on juge inutiles. On dit qu'on fait trop de soins, là, trop de. En termes de soins, on parle ici là, de résonance magnétique, de scans, d'échographie. On en fait trop au Québec, ça coûte cher. Et bref, les médecins spécialistes se sont dit d'accord, on va gérer ça. Là, il y a plein de choses qu'on nous explique pas, bien sûr, là-dedans. On nous parle de 2023, on nous parle d'Institut de la pertinence. L'impression qu'on noie un peu le poisson. Une chose est sûre, moi, ce matin, il y a des questions qui me sidèrent. D'abord, voulez-vous m'expliquer ça? On a de plus en plus de médecins millionnaires au Québec et de plus en plus de patients appauvris par la maladie. J'essaye de comprendre la logique. Je la comprends pas. Quand même, là. On va en discuter avec le docteur Hugo Vien, orthopédiste. Il est président de l'Association médicale du Québec. Bonjour, docteur Vien.
Bon matin, Isabelle.
Paul Brunet, président et porte-parole du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, Paul.
Bonjour.
Je commence avec le docteur Vien. Docteur, vous aviez publié en février 2018 une lettre qui a fait beaucoup jaser parce que vous disiez que vous étiez très mal à l'aise à l'égard de l'entente qui avait été conclue entre Québec et les spécialistes par l'ex-gouvernement libéral. On sait que vous êtes un chirurgien orthopédiste assez engagé. Vous plaidez pour qu'on change un peu le système de rémunération des médecins. Avez-vous le même malaise par rapport à cette, entre guillemets, là, nouvelle entente? Je mets des guillemets parce que je trouve que finalement, c'est pas grand-chose de nouveau là-dedans. Là. Ce que je comprends, c'est que les médecins spécialistes vont pas perdre une scène là-dedans. Là. Alors, est-ce que ça vous met tout autant mal à l'aise aujourd'hui?
J'ai bien aimé votre introduction parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses cachées là-dedans, comme dans toutes les ententes qui se négocient avec le gouvernement. Mais je peux vous dire que pour une fois, je considère que la Fédération de médecins spécialistes du Québec a quand même fait un pas en avant dans son implication, dans sa responsabilité par rapport au réseau de la santé. Et je peux pas faire autrement parce que ce qui est inclus aujourd'hui dans l'entente, puis ce qu'on amène, c'est des revendications ou c'est des suggestions qu'on a nous-mêmes dans les dernières années poussées à l'avant, qu'on a proposées au gouvernement lors de son arrivée au pouvoir, comme étant des solutions d'avenir pour maintenir, pour garantir l'accès dans notre réseau puis nous assurer de sa pérennité. Alors, c'est un pas très important parce que pour une fois, on s'implique puis on réfléchit au système, on réfléchit à ce qu'on peut faire de mieux, ce qu'on peut faire de moins aussi, parce qu'en faire moins dans un réseau dans lequel les ressources sont limitées, c'est des fois faire plus à des patients qui en ont besoin.
Oui,
donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle.
Parce qu'entre autres, vous disiez, vous, dans votre lettre d'il y a presque 2 ans, qu'il y a effectivement trop de dépenses inutiles, de surdiagnostics qui amènent, entre autres, trop d'examens coûteux. En même temps, c'est les médecins omnipraticiens qui les demandent, hein, au système, ces examens-là. Puis là, si je comprends bien, c'est pas la FMOQ, les médecins omnis là, qui sont touchés, c'est les spécialistes. Fait que déjà là, en partant, est-ce que la FMOQ va participer? On le sait pas. Vous êtes aussi en faveur de l'Institut de la pertinence. On va y revenir parce que ça, il faut qu'on comprenne ce que c'est. Mais je vais demander d'abord à Paul Brunet de réagir à chaud. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul, de cette nouvelle affaire?
Isabelle, il faut croire les chiffres. On sait depuis quelques années qu'il y a eu une entente qui était faramineuse, qui coûtait beaucoup trop cher et qui a placé les spécialistes dans une position qui n'était pas défendable en soi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on se questionne sur la pertinence, il faudrait d'abord qu'il y ait suffisance.
C'est-à-dire?
Bien, il y a du monde qui attend 2, 3, 4 ans pour, en orthophonie, en ergothérapie. Il y a des manques présentement. On a de la misère à avoir des soins pour plusieurs patients, des listes d'attente assez importantes. Fait qu'avant de dire on va se questionner si c'est pertinent, on pourrait-tu en avoir suffisamment de soins spécialistes?
Mais là, vous amenez de l'eau au moulin, justement, de Diane Francoeur, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, parce qu'elle aussi est d'accord avec le docteur Vien qui dit il y en a trop d'examens demandés. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a trop de monde pour le même scan.
Mais il y a quelqu'un qui demande ces examens-là. On me dit que beaucoup d'examens supplémentaires sont demandés, parfois par incompétence de la part du généraliste, parfois pour se protéger. Ça, là, c'est plusieurs pourcentages d'examens puis de tests de toutes sortes qui sont inutiles, j'en conviens, mais je ne veux pas que les patients soient touchés. J'aime bien la question de la pertinence, on s'entend tous, tout le monde est pour la vertu, mais il faut qu'il y en ait assez pour tout le monde, et ça prend de la compétence au départ, on s'entend là-dessus.
Ça, c'est Diane Francoeur qui disait ça, entre autres, ce matin, encore, à mon collègue Paul Arcand. Elle disait que les médecins québécois prescrivent trop d'examens inutiles parce qu'ils ont peur de se faire poursuivre par les patients, entre autres. Et ça me fait tellement rire. Parce que je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup de poursuites. Puis quand tu essayes de poursuivre, bonne chance, tu vas y passer beaucoup de temps. Et il y a prescription de 3 ans.
Oui.
Après 3 ans, c'est final bâton, là.
Ben oui, puis on paye déjà pour leur assureur et leur avocat.
Docteur Vien, expliquons cet institut de la pertinence. Essayons d'expliquer ça là, aux Québécois qui nous écoutent, là. C'est quoi un institut de la pertinence?
J'aimerais réagir au propos de M. Brunet. Nous sommes tous d'accord qu'on doit d'abord avoir suffisance dans le réseau. Puis je suis tout à fait d'accord qu'avant de commencer à couper, parce qu'on peut voir ça comme ça, couper des tests, couper des soins, il faudrait s'assurer d'être capable d'offrir les bons. Mais c'est une adéquation. Si on considère encore une fois qu'on met assez d'argent dans le système de santé, on ne peut pas remettre ça en question. 50-quelques % du budget programme, on passe à moitié des ressources de l'État en santé actuellement. Je pense qu'il faut faire avec l'argent qu'on a les meilleurs soins possibles. Alors, une fois que ça c'est dit, c'est important de considérer qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Puis pour pouvoir justement donner les soins qui sont pertinents, qui sont utiles, qui sont nécessaires, ceux dans le fond qu'on regrette ne pas avoir, bien, il faut couper ceux qui sont pas pertinents puis qui ont peu ou pas de valeur. Donc, c'est ça l'Institut de la pertinence. C'est ce qu'on a amené depuis 2014 avec le premier congrès sur surdiagnostic que l'AMQ a fait. Et je suis content que, malgré qu'on ait travaillé dans l'ombre, aujourd'hui, la FMSQ, qui est le syndicat, reprenne ça, supporté par le gouvernement qui a enfin écouté les doléances d'une association qui connaît le réseau, des médecins qui ont envie de participer au réseau. Puis on met ça sur la table. Maintenant, ce que c'est l'Institut sur la pertinence, bien, contrairement aux autres provinces, au Québec, le gouvernement a toujours voulu garder la mainmise plutôt que de laisser aux médecins faire ça, c'est-à-dire de donner à l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, le mandat de regarder les éléments qui sont à intégrer dans notre réseau, les médicaments qui sont à payer, la chimiothérapie qu'on doit rembourser dans le cadre de nos soins. Et c'est une organisation qui fonctionne avec un budget qui dépend un peu de la politique. Moi, ce qu'on déplore, nous, c'est que c'est encore cet institut-là qui, malgré les ressources qui sont quand même disponibles, doit travailler pour un peu gérer ou faire des propositions au système de la santé ou aux médecins, alors que dans les autres provinces, on a une alternative ou en tout cas, on a une initiative qui est Choisir avec soin, qui fonctionne dans toutes les provinces, qui a amené des améliorations rapides, et qu'au Québec, on a assez d'inclure, mais que le gouvernement n'a pas voulu embarquer, puis on est la seule province dans laquelle le gouvernement n'a pas mis l'argent nécessaire pour que la campagne qui est partout dans le reste du Canada soit mise de l'avant. Et l'AMQ l'a fait, l'a supporté à la place du gouvernement dans les dernières années. Et plutôt que de favoriser cet institut-là ou de cette innovation-là qui est concrète, qui est pertinente, qui aide les médecins sur le terrain, bien, on va demander à l'INES de faire des propositions. Je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas, mais évidemment, c'est moins bottom-up.
Mais c'est une nouvelle affaire, c'est une nouvelle bébelle, si je comprends bien. C'est un institut, il va y avoir donc un local, des bureaux, du monde qui va travailler là, un fax, des téléphones, de l'argent là, qu'on va dépenser là pour dire aux médecins, voici ce qui est pertinent de prescrire.
Oui, et il faut comprendre
c'est ça.
L'INES travaille beaucoup avec la Fédération des médecins spécialistes sur des ententes salariales pour que les médecins puissent participer à ces travaux-là. Je dis pas que c'est pas bon, il y a des choses très intéressantes qui ressortent de l'INES. Mais ce que j'aurais aimé, moi, voir, c'est plutôt une initiative qui vient du terrain, qui implique les médecins directement, des outils pratiques pour aider les patients aussi à discuter de la pertinence de leurs soins avec les médecins. C'est surprenant aujourd'hui combien de fois je suis avec mes patientes de 80 quelques années qui viennent me voir pour un problème problèmes de genoux, mais à qui je parle des traitements puis des soins qui sont entrepris, puis je leur demande, est-ce qu'on vous a demandé si ça vous intéressait de faire ça? Est-ce qu'on vous a demandé, puis on vous a dit pourquoi on vous proposait tel test? Puis trop souvent, les patients me disent, ben non, je ne sais pas pourquoi le docteur m'a dit qu'il fallait que je fasse ça.
Mais docteur,
alors,
bien,
ça, c'est cette culture-là qu'il faudrait
être en train de me dire que l'INES ne pouvait pas faire ça, que personne au ministère de la Santé pouvait faire ce genre d'études-là, et pire, qu'il n'y aura pas de spécialiste au sein de ce comité qui va se pencher. On va encore arriver avec des résultats et les médecins vont dire « Hey, c'est pas toi qui es médecin, c'est moi. » Pourquoi on n'intègre pas des médecins spécialistes dans cette étude-là? Si ces gens-là sont pas médecins spécialistes, on va encore se faire dire que c'est pas de nos affaires et qu'on sait pas de quoi on parle.
Bien, ils intègrent les médecins spécialistes. Il y a des ententes entre la FMSQ, justement, pour la rémunération des médecins qui participent aux travaux de l'INES. Donc ça, ça a été négocié entre la FMSQ et l'INES. Ce que je déplore, par contre, c'est que très souvent, puis je l'ai dit dans le passé, c'est que les travaux de l'INES sont mis, sont proposés, sont faits, sont publiés, mais on n'a pas de réalité concrète pour nous, les médecins spécialistes de médecins en application. Mm. Et l'INES va sortir avec des recommandations, et les médecins avec qui on en parle, mais pourquoi c'est écrit à l'INES, pourquoi on ne fait pas ça?
Ben, docteur,
dans mon milieu, personne ne fait ça, je ne suis pas le premier, parce que je ne veux pas me faire poursuivre par le Collège des médecins.
Docteur, bien, je vous écoute, puis j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites et votre engagement personnel dans la cause, et puis j'ai beaucoup de respect pour tous les médecins qui se dévouent corps et âme. Mais sincèrement, regardez, là, je vous écoute depuis 10 minutes. Là on est parti sur l'INES, on est parti sur l'Institut de la pertinence. Moi, je dis chapeau au gouvernement, puis à Diane Francoeur, la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Bravo pour la poudre aux yeux qu'ils viennent de nous garrocher, parce que là, on ne parle plus du fait qu'ils avaient promis qu'ils nous rapporteraient 1 milliard qu'on a donné en trop aux médecins spécialistes, là. Là, on est parti dans des considérations autres. Hey, c'est une tellement belle job politique, là. Marketing, c'est comme incroyable. Savez-vous comment qu'on l'a su, ça? Moi, hier, quand j'ai vu la face de Diane Francoeur, le sourire gros de même, sachant que 88 % des médecins spécialistes étaient d'accord avec l'entente, me suis dit, elle a juste l'air trop de bonne humeur pour que ça nous rapporte quelque chose à nous, les patients. C'est ça que j'ai pensé. Voyez-vous, commence à la connaître un peu, Mme Francoeur? Elle avait juste l'air trop contente. Là, je me suis dit, c'est suspect. Ça se peut-tu
c'est
qu'on a...
Hein?
Pensez-vous ça, docteur Vieux?
Viens. C'est un win-win.
Ben, le win, à nous, il est où, le win? Moi, on va couper des soins sur le dos du monde, docteur Vieux.
Écoutez, est-ce qu'on va couper dans les soins sur le dos du monde? Je suis pas d'accord. Est-ce que ça fait l'affaire de la FMSQ de dire on va sauver en pertinence? C'est exactement ce qu'on avait proposé à M. Dubé de faire. Ça s'est fait en Alberta et on leur a proposé au début de leur mandat.
Si c'est pas ça qu'on a vendu au monde, par exemple. Puis ça, c'est pas votre problème, docteur. J'en conviens. C'est un problème de politique. C'est à François Legault aujourd'hui.
Les derrières de l'histoire, c'est qu'en Alberta, ils ont sauvé 500 millions sur l'enveloppe budgétaire totale de la province en travaillant avec les médecins, en entrant à la pertinence dans la responsabilité médicale.
Parfait.
En rendant les médecins imputables des revenus.
OK, mais moi, le 500 millions, parfait. Là, on vient d'apprendre finalement que les médecins peuvent aider.
C'est 1 milliard au Québec. L'équivalent, ça devient 1 milliard au Québec. Quand on a expliqué ça à M. Dubé, on lui a dit, écoutez, vous voulez que votre promesse électorale de sauver 1 milliard avec les médecins spécialistes en les coupant, on leur dit, il n'y a plus intelligent que ça. Impliquez les médecins spécialistes et proposez-leur qu'on sauve encore plus
C'est une approche de négo.
Vous pourrez garder votre rémunération la même parce qu'on vous allez avoir un objectif encore plus puis encore meilleur à proposer à la population en gain, en efficience et en coût du système de santé qu'on peut, cela dit, réinvestir ailleurs dans des soins qui sont plus pertinents. C'est pour ça que je vous dis que c'est un win-win. Oui, politiquement, ça paraît bien. Le gouvernement sauve la face sur son engagement électoral d'un milliard. La FMSQ maintient sa rémunération à travers les tarifs qui n'auront pas à être baissés. Et à travers tout ça, on dégage de l'argent, oui, puis qu'on pourra réinvestir à la bonne place.
Mais docteur, viens, c'est un win-win entre les médecins et le gouvernement. Mais nous autres, les patients, on a de la misère à en avoir suffisamment, puis on va se faire dire qu'il va falloir qu'ils soient pertinents. C'est pas winner pour nous autres. Je l'excuse, mais à court terme, on est mal barré, comme dirait l'autre.
Bien, ça dépend de la position. Si on parle de la position où le budget est limité puis qu'on a.
On parle pas d'une position, docteur Vient. Je vous parle de quelqu'un qui attend pour des soins spécialistes puis qui s'est fait dire que ça prendrait 4 ans. C'est ça dont on parle ce matin, là. Il y a du monde qui ne reçoit pas les soins de spécialistes puis vous allez vous questionner sa pertinence alors qu'il n'y a rien de suffisant. Comment? Je veux de la suffisance.
Monsieur Brunet, je vais vous donner un exemple. À l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu, je suis chirurgien orthopédiste, on a un grand volume de chirurgiens orthopédistes. On manque d'argent pour donner les soins à nos patients, pour opérer nos patients.
Ça, c'est insuffisant.
On envoie depuis 40 ans des morceaux d'os qu'on coupe des prothèses, quand on fait une prothèse de genou, en pathologie, pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis que le pathologiste nous réponde que c'est de l'arthrose. Quand on parle de pertinence, cette culture-là, ces changements-là, bien, on a arrêté depuis un an et demi à Saint-Jean, puis on était le premier hôpital au Québec, à ne plus envoyer les morceaux de pathologie osseuse en pathologie pour que le pathologiste bille une facturation pour dire que c'est un os qu'on a enlevé d'un genou, que les techniciennes ramassent ça, mettent ça d'un petit pot, qu'on écrive un petit rapport, qu'on mette ça au dossier du patient. Ça, c'est de l'argent perdu pour tout le monde et c'est de l'argent qui ne revient pas aux soins puis qu'on ne peut pas mettre sur les nouveaux instruments pour opérer des patients. Alors, un exemple de pertinence puis d'implication de la communauté médicale et du gouvernement, c'est ça. Ça, c'est positif puis on ne pourra pas dire le contraire.
Est-ce qu'on parle de pertinence ou de compétence ici, là, avec cet exemple-là en particulier?
Ça, c'est de la pertinence. La compétence, c'est en brisant nos silos, en travaillant avec les médecins omnipraticiens, avec les médecins spécialistes, en augmentant les liens entre les deux pour que nos références soient pertinentes. Et ça, c'est un gros problème de notre système. Ouais. On travaille en silo, on a une fédération des médecins spécialistes, fédération des médecins omnipraticiens. Les deux travaillent en compétition un peu dans nos relations avec dans les
Ils sont même pas concernés par cette entente là avec la fédération des médecins spécialistes.
Ça, c'est dommage parce qu'au Québec, la communauté médicale devrait se mettre ensemble pour dire comment la trajectoire d'un patient pourrait être améliorée, comment elle peut être plus efficace, qu'on arrête d'utiliser le patient ou de voir le patient comme une balle de pinball dans une machine, vous savez, là où la boule se promène, ding, 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 puis on frappe des home runs. Des fois, on réussit à avoir un soin. Pendant ce temps-là, le réseau est autour, puis renvoie le patient. Moi, c'est l'image que j'ai du réseau de la santé actuellement. Et tout ça, là, les bing, 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 bien, les points s'accumulent, c'est la machine à boule, puis ça, c'est de l'argent qu'on dépense. Alors, si on était capable de rendre plus efficace la trajectoire d'un patient, qu'on brisait nos silos et que tout le monde était imputable, du coup, au bout de la ligne, si on est imputable, du coup, on brise les dédoublements. Le patient va passer moins de temps à se promener d'un bord à l'autre parce que ça sauve l'argent à tout le monde, puis le patient va être mieux traité en s'assurant que la trajectoire est adéquate.
Merci.
C'est un peu ça qu'on va commencer à faire.
Merci, Dr. Hugo Vien, orthopédiste, président de l'Association médicale du Québec. On s'arrête ici. Au retour, je veux entendre vos commentaires là-dessus. Vous en pensez quoi de cette entente-là? Avez-vous l'impression que le gouvernement de la CAQ répond à ses promesses électorales d'aller chercher le milliards promis, il ne se fera pas de la même façon. Puis vous savez, à une certaine époque, on parlait de 4 milliards en salaire aux médecins. Là, finalement, quelques mois après, on a appris que c'était 7 milliards. Là, on nous parle de 2023. On nous garoche plein de chiffres. Voir si on est capable, en plus de vous dire, même nous, les journalistes, les animateurs, on est-tu capable de savoir vraiment, même Paul Brunet, il sait-tu vraiment, on le sait-tu vraiment, combien ils reçoivent? On nous roule dans la farine. Tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est que quand on va à l'hôpital, c'est vrai qu'on est patient. Puis être une boule dans une machine de pinball, là, c'est pas la meilleure position. Ça donne mal à la tête. 514-790-9850. Sans frais, le 1-866-790-9850. Nos lignes sont pleines. On va essayer de parler au plus grand nombre possible. Donc, soyez brefs. Bruce, c'est une bonne entente pour vous. Êtes-vous satisfait de ce que le gouvernement est allé chercher auprès des médecins spécialistes?
Moi, avec ce que le gars a dit, ma question, c'est qui va décider de la pertinence? Le gars a déjà des projets de où va aller l'argent, alors ça prendra pas de temps que ça va coûter plus cher. Voilà. Qui va décider cette pertinence-là?
Ouais. Hein? Merci, Bruce. Luc, votre opinion?
Oui, bonjour, Isabelle. Bonjour. Essentiellement, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas un élément manquant dans cette entente-là, à savoir si les médecins sont pas capables d'aller nous faire sauver le milliard? Chose qui serait intéressante. Est-ce que c'est eux qui vont avoir des pénalités à savoir sur leur rémunération pour couvrir le manque à gagner?
Très bonne question, bon ça. Bravo. Très bonne question. Ça, c'était ce que Gaétan Barrette disait à l'époque, mais je pense pas que ça soit comme ça avec Mme McCann, puis il l'a pas fait non plus. Non. Suzanne, bonjour.
Oui, bonjour madame. Félicitations pour votre émission.
Merci.
J'aime beaucoup.
Merci.
Maintenant, on va enlever des services. Les mammographies, c'est sûr, nous sommes une population âgée, mais où on va en venir quand on sait qu'on arrive au point à 85 % de réussite pour la recherche cancer du sein. Puis là, on va laisser aller nos filles que leur mère a eu un cancer du sein.
Donc,
on
vous dites, c'est aller. Clair que ça va couper des actes importants. Vous pensez
ça? Ouais. On a fait beaucoup, on a avancé beaucoup, on va reculer.
Merci, Suzanne. Claire, votre opinion là-dessus, sur cette entente?
Oui, bonjour, Isabelle. En fait, moi, je trouve que l'important, ça serait que les médecins soient compétents, parce que si à ce moment-là, ils nous donnent certains, pas des diagnostics, mais des radiographies, quoi que ce soit, puis ils nous en donnent plusieurs, des cinquièmes, puis cinq, puis six radiographies, il faudrait savoir la pertinence de les données, puis leur compétence. à donner les bons outils puis les bons radiographies.
Merci beaucoup, Claire. Va-tu falloir, Paul Brunet, une prime, un peu comme la prime à la jaquette, une prime à la compétence du médecin?
Oui, voilà.
Non, mais je pense qu'il y en a vraiment des médecins compétents. Absolument. Je pense que la plupart sont compétents. Moi, je pense que le système est trop lourd. Mais dans le cas qui nous intéresse ce matin, Québec, le gouvernement de la CAQ avait promis en campagne d'aller chercher 1 milliard parce qu'on considérait, ils considéraient, quand ils étaient dans l'opposition, que 7 milliards aux médecins, c'était trop. Puis qu'ils étaient beaucoup plus payés, le médecin québécois était beaucoup plus payé que son homologue ontarien ou albertain. On n'est quand même pas la province la plus riche, là, à moins que ça ait changé cette nuit, puis je le sais pas. Mais comment ça se fait que... Puis là, ce matin, j'entendais Dan Francoeur qui semblait dire que dans 3 ans, les médecins d'ici allaient gagner moins cher, 10%. En tout cas, on nous garoche des chiffres.
On va être là dans 3 ans. On va voir qu'est-ce qui est arrivé, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que ça va aboutir à pas grand-chose. J'espère être confondu. En attendant, Isabelle, pour Noël, allons voir nos vieux parents, nos vieux amis. C'est important. Pour au moins qu'ils aient un peu de lumière à l'occasion des fêtes. Joyeux Noël.
Oui, ben c'est ça qu'on va dire. Hein? Puis tu sais, faire ça, là, mettons, à 1 semaine et demie de Noël, alors que les gens sont en train de préparer la dingue, les atokas, puis les parties, puis c'est quand même malin. Là. C'est quand même un bon timing pour qu'on oublie qu'on se fait un petit peu avoir. Je dis ça de même. Merci beaucoup, Paul Brunet. Président, porte-parole du Conseil pour la protection des malades. On va s'arrêter ici, très courte pause. Un autre drame familial qui s'est déroulé cette semaine. On est bien découragé, je ne sais pas vous, là, mais je ne sais plus comment vous le présenter. On ne sait plus comment prendre le dossier. Je reviens avec une question importante. Il y a beaucoup d'hommes en détresse. Comment prévenir la détresse des hommes pour éviter qu'ils s'en prennent à leur famille? On va essayer de voir ça ensemble, comment on peut aider ça. À tout de suite, tout le monde.